Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 29e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec la question « Le vrai disciple de Descartes est-il avant tout l'homme généreux ?» La dernière œuvre de notre cavalier français ne porte pas sur la réalité. Elle s'intitule « Les passions de l'âme » et nous présente soudain le père de la technologie comme un grand passionné. Il le dit clairement et distinctement contre la vieille tradition stoïcienne. Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Celui qui hier commençait par le doute commence à présent par l'admiration et il place au-dessus de tout non plus la science certaine et efficace, mais la générosité. Le prétendu rationaliste serait-il donc un passionnaliste ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui en lisant un passage des Passions de l'âme et en nous laissant étonner par un Descartes rené de ses cendres en génie du généreux.
Parce que l'une des principales parties de la sagesse est de savoir en quelle façon et pour quelle cause chacun se doit estimer ou mépriser, je tâcherai ici mon opinion. Je ne remarque en nous qu'une seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer, à savoir l'usage de notre libre arbitre et l'empire que nous avons sur nos volontés. Car il n'y a que les seules actions qui dépendent de ce libre arbitre pour lesquelles nous puissions, avec raison, être loués ou blâmés. Et il nous rend en quelque façon semblables à Dieu en nous faisant maîtres de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne. Ainsi, je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi ils doivent être loués ou blâmés, sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, ce qui est suivre parfaitement la vertu. Ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d'eux-mêmes se persuadent facilement que chacun des autres hommes les peut avoir en soi aussi, parce qu'il n'y a rien en cela qui dépende d'autrui. C'est pourquoi ils ne méprisent jamais personne. Et bien qu'ils voient souvent que les autres commettent des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils sont toutefois plus enclins à les excuser qu'à les blâmer, et à croire que c'est plutôt par manque de connaissances que par manque de bonne volonté qu'ils les commettent. Et comme ils ne pensent point être de beaucoup inférieurs à ceux qui ont plus de bien ou d'honneur, ou même qui ont plus d'esprit, plus de savoir, plus de beauté, ou généralement qui les surpassent en quelque autre perfection, aussi ne s'estiment-ils point beaucoup au-dessus de ceux qu'ils surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort peu considérables à comparaison de la bonne volonté, pour laquelle seul il s'estime, et laquelle il suppose aussi être, ou du moins pouvoir être, en chacun des autres hommes. Ainsi, les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles. Et l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que la réflexion que nous faisons sur l'infirmité de notre nature et sur les fautes que nous pouvons autrefois avoir commises ou sommes capables de commettre, qui ne sont pas moindres que celles qui peuvent être commises par d'autres, et cause que nous ne préférons à personne nous-mêmes, et que nous pensons que les autres, ayant leur libre arbitre aussi bien que nous, ils en peuvent aussi bien user. Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'il n'estime rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt, pour ce sujet, ils sont toujours parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun.
Fabrice Adjadj, il n'y a que les seules actions qui dépendent du libre arbitre pour lesquelles nous puissions avec raison être loués ou blâmés. Quel est le contexte de ce texte ?
Nous sommes donc dans un autre Descartes, pourrait-on dire, le même, et autre, celui des passions de l'âme. Le même parce que, bien sûr, il y a toute la physique cartésienne, toute une pensée du corps. Le même parce qu'il dit bien qu'il va falloir rompre avec tout ce qui a été dit autrefois sur les passions. Et il dira bien que ce qui est passion d'un côté est action de l'autre, et donc il va dire que ce que l'âme subit comme passion, ce sont souvent en fait des actions du corps, à partir de certaines perceptions du corps, hein, de la réceptivité du corps au monde extérieur, eh bien, ça va remonter comme des passions, voilà, des choses que l'âme va pâtir. Et inversement, d'ailleurs, l'âme va pouvoir influer sur le corps par ses volontés, créer des dispositions dans le corps de telle sorte que ça rejaillit sur l'âme comme une passion qui va porter l'âme. Vous voyez, on peut entraîner notre corps, vous voyez, comme on donnerait un coup d'éperon au cheval, voilà, et puis s'en va. Et puis après, on est emporté aussi. Donc cette passion qui a été activée par l'âme, vous voyez, qui va dans le corps. Et alors, bien sûr, on est toujours dans cette physique cartésienne, physiologique, mécaniciste, où ce qui permet le passage du corps à l'âme serait situé, même si l'âme est conjointement dans toutes les parties du corps, hein, il est dans la grande tradition classique, mais il y a ce qu'il appelle la glande pinéale, hein, cette fameuse glande où se trouveraient les esprits animaux, et ce sont ces esprits qui serviraient d'intermédiaire. Donc là, on est dans le Descartes qu'on connaît, quoi, hein, celui d'une science mécaniciste. Mais de l'autre côté, on est dans un Descartes qui fait l'éloge des passions, d'une part, et qui, à la différence, par exemple, des stoïciens qui disaient que les passions, c'était toujours la passivité, donc c'était mauvais, et qu'il fallait une volonté absolument dépouillée de passions. On a besoin de ces passions de l'âme qui nous entraînent. Et d'ailleurs, on voit bien ici, on est dans un traité des passions, on nous parle de la générosité ou de l'estime de soi. Est-ce qu'on parle de vertu ou on parle de passion ? Bon, c'est là où il y a une ambiguïté dans ce texte. En fait, il s'agit bien de passion. Mais cette passion, si elle est bien ajustée, si elle est selon la bonne connaissance, à ce moment-là, elle va porter l'âme elle va aider la volonté à produire des grandes œuvres. Donc c'est ça ce qui est en jeu dans ces passions. Et puis, l'autre aspect, on l'a entendu dans ce texte, qui est très important, c'est qu'effectivement, ce qui est au-dessus du savoir, on pouvait penser que Descartes, c'est le rationaliste, celui qui nous dit que l'enjeu, c'est de se rendre comme maître et possesseur de la nature, et donc le père de cette technoscience, obsédé par la maîtrise du monde. Mais en fait, non. L'enjeu, c'est d'abord, ici on le voit bien, la maîtrise de soi, la sortie de l'orgueil, puisque justement le vice opposé à la générosité pour Descartes, c'est l'orgueil. Et donc l'idée qu'une bonne volonté, et même, on l'a entendu dans ce texte, au-dessus de tous les autres biens, puisque c'est la seule chose pour laquelle on a été, on pourrait dire, vraiment libre, quoi. C'est l'usage de notre libre arbitre. On a choisi le bien, on a choisi d'aller vers le bien, et cette bonne volonté est donc la chose la plus précieuse, au-dessus du savoir, au-dessus de la beauté, et elle constitue la sagesse même.
Il semble cependant, Fabrice Adjadj, que la bonne volonté ne soit pas suffisante, puisque Descartes dit lui-même que si on manque de connaissances, on peut pourtant avoir une bonne volonté et pourtant mal agir.
Bien sûr, il faut une bonne connaissance, mais la bonne connaissance, comme toujours chez Descartes, est insuffisante, parce que la connaissance est toujours limitée alors que la volonté est infinie, ça c'est le grand thème cartésien. On peut voir le bien, savoir que c'est bien et choisir le mal. Hein, ça c'est... Et donc, le fait même que l'on choisisse le bien, c'est vraiment cela qui est digne d'estime. Donc, le savoir est nécessaire, mais il ne suffit pas. Et ici, le savoir, c'est justement l'accumulation des connaissances scientifiques. Là, si on parle de connaissances morales. Alors là, on est au cœur aussi d'une grande question. Bon, vous avez dit en introduction, d'abord, que effectivement, la première des passions, chez Descartes, il y a des lieux très très intéressants dans ce traité des passions de l'âme. Mais d'abord, la première des passions, c'est l'admiration. C'est pas le doute. Et tout d'un coup, on comprend, si on relit les méditations métaphysiques, que avant le doute, chronologiquement, il y a l'admiration chez Descartes. Donc voilà un texte qui arrive à la fin, mais qui nous dit en fait ce qu'il y avait avant. L'admiration, c'est le fait que tout d'un coup, il y a une passion d'ailleurs qui n'a pas de contraire, hein, puisque c'est le fait d'avoir une connaissance, c'est ce dont on n'a pas la connaissance, on ne peut pas l'admirer, donc une connaissance qui détonne, qui nous étonne. Et donc, en fait, la rencontre du monde est d'abord sous le sceau de l'admiration, lui. Alors, ça rejoint les anciens, l'émerveillement, le tomatsein, hein, qu'on voit aussi bien chez Platon que chez Aristote. Et c'est d'abord parce qu'on s'est émerveillé du monde et qu'on a vu, peut-être qu'on a entrevu quelque chose comme un absolu dans le monde, que l'on va se mettre à douter, qu'on va relativiser tout ce qui n'est pas de l'ordre de cet absolu. Ou parce qu'on s'est d'abord émerveillé, que tout ce qui vient aller contre cet émerveillement va produire un doute. Et alors, on va chercher, comment dire, de quoi s'émerveiller toujours. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un autre Descartes. Et puis, c'est un Descartes qui va parler de l'amour aussi. Et un Descartes qui va avoir des pages admirables en disant qu'il n'y a qu'un seul amour, qu'il n'y a pas plusieurs espèces d'amour, mais plus ou moins pur et plus ou moins désintéressé. Et alors il dit l'amour de la fortune, l'amour de ci, cela, l'amour d'une maîtresse. Et puis il dit l'amour d'un père pour ses enfants. Et il va dire l'amour le plus pur, c'est l'amour du père. Une page admirable, hein, où il dira, parce qu'on cherche le bien de l'autre, c'est pas sûr, c'est sans retour. Alors que l'amour d'une maîtresse, même si on aime une femme, bah, il y a toujours, là, il s'y mêle toujours aussi quelque chose, hein, comme un retour vers soi, bah, ne serait-ce que le plaisir. Donc en plus, un Descartes qui va non seulement affirmer la valeur de la générosité, ici on l'a entendu, mais aussi de l'amour paternel. Donc il ne faut pas oublier ce Descartes-là.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, le vrai disciple de Descartes est-il avant tout l'homme généreux ? Fabrice Hadjadj, dans mon introduction, je parlais de la morale stoïcienne qui rejette et qui refuse les passions, mais il y a un second point sur lequel Descartes semble s'opposer aux stoïciens, c'est que la vertu n'est pas pour soi. La vertu, c'est forcément une émanation pour les autres. La première vertu, c'est la générosité.
Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, il est certain qu'il y a une générosité stoïcienne. Mais vous avez raison de dire qu'elle vient dans un second temps. C'est presque la preuve qu'on est suffisamment détaché et qu'on est suffisamment dans une paix intérieure. Mais c'est cette paix intérieure qui est première. Chez Descartes, il y a un renversement de l'ordre des choses. De toute façon, c'est souvent ces choses-là qu'il y a entre le stoïcisme et le christianisme. Par exemple, les stoïciens croient en une providence divine, mais c'est pour être en paix, d'une certaine façon. Alors que chez le chrétien, il s'agit d'être suffisamment en paix pour s'abandonner à la providence divine. Ici, effectivement, ce qui est premier, c'est la générosité. Et on retrouve ce qu'on avait vu la dernière fois dans le texte sur les raisons de la révolution scientifique et de la science opérative qui apparaissait avec Descartes, quand il dit « on va faire des sciences utiles à la vie, cette nouvelle physique contre la physique aristotélicienne qui nous permet de maîtriser les forces de la nature pour nous en rendre comme maîtres et possesseurs », c'est pour ne pas pécher en gardant pour soi ce qui pourrait être le bien de l'humanité. Et là, on retrouve cela. On voit bien que l'enjeu, c'est le généreux, c'est celui qui... les généreux sont ceux qui n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt. Donc on voit une morale, bien sûr, qui a des remarques qui ont l'air d'être celles de la raison et d'une pure réflexion en dehors du christianisme. Mais la question, c'est de savoir, en fait, si c'est une morale, s'il y a une morale philosophique chez Descartes, ou si c'est plutôt encore, en fait, sa foi chrétienne qui parle ici.
Parlant de sa foi chrétienne, justement, il y a une fois de plus la comparaison, ou presque la similitude avec Dieu qui revient sans cesse, comme maître et possesseur de la nature, une volonté comme infinie, et là, l'usage, le bon usage de notre libre arbitre qui nous rend, en quelque façon, semblable à Dieu.
Oui, alors, bon, il y a plusieurs choses. Dans le discours de la méthode, Descartes dit que sa première démarche concerne les sciences et que s'agissant de morale, on ne va pas en parler pour l'instant. Donc, il y a une morale par provision, comme il dit, C'est-à-dire une morale où on dit il faut suivre les coutumes de son pays, il faut être un fidèle chrétien, etc. Et puis, on pourrait dire, bah, il a écrit les Passions de l'âme, il est mort après 50 et quelques années, et puis il n'a pas eu le temps d'écrire sa morale philosophique. Ou alors, est-ce que la morale est toujours par provision chez Descartes? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un projet technoscientifique, mais de l'autre côté, la morale, bah, c'est la morale chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est, il n'y a pas de philosophie morale, peut-être, chez Descartes. Peut-être qu'au fond, il n'y en a jamais eu, il n'y en aurait jamais eu, en fait, même avec le temps. Deuxième chose, effectivement, on pourrait dire, mais malgré tout, il y a un biais ici. Le biais, c'est de penser le rapport à Dieu, on veut dire, hein, nous rend en quelque sorte semblable à Dieu, donc comme maître et possesseur de la nature, on l'avait vu ici. Effectivement, il y a des échos entre les deux textes, le texte qu'on a vu la semaine précédente et ce texte-là. Le bon usage du libre-arbitre, hein, qui n'est pas d'être sans passion, mais le fait que toutes les passions sont ordonnées et nous portent vers le bien, qui est le bien de la volonté, qui est Dieu lui-même d'ailleurs, donc nous rend en quelque façon semblable à Dieu en nous faisant maître de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne. Alors ça, c'est, cette phrase, elle est admirable. D'abord parce qu'il y a la question de la lâcheté qui rentre. Derrière la générosité, il y a le courage. On voit cette expression qu'on a reprise, le cavalier français. Enfin, on voit un homme qui a fait la guerre d'Allemagne, qui a un sens en fait du courage. C'est une grande figure en fait cartésienne que l'homme courageux, que le chevalier d'une certaine façon. Et on sait qu'il a pu manier l'épée. Enfin bon, c'est pas donc un Descartes presque en mousquetaire. Faut pas le là. D'ailleurs, on le voit avec cette, quand on ne l'est pas avec cette moustache, on pourrait le prendre pour D'Artagnan ou peut-être pour Aramis plutôt. Et plutôt Athos, pas plutôt qu'Aramis, hélas, celui qui devient le général des Jésuites, là, le terrible, le double Aramis. Non, Athos, voilà justement, l'aristocrate, l'homme intérieur. Il y a vraiment cette critique de la lâcheté, mais cette maîtrise de nous-mêmes, c'est un droit que Dieu nous donne. Donc attention, la maîtrise est un don. Ouais, c'est dit là. C'est pas juste moi-même qui me maîtrise moi-même. La maîtrise reste un don. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir de ce. Donc il y a une référence à Dieu, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on est maître de soi. Effectivement, pour l'autre. C'est bien cela. Et alors, on en arrive maintenant au cœur de ce texte, c'est-à-dire, après tout, le bon usage de la volonté, et ça fait partie, comment dire, de l'anthropologie cartésienne. À partir du moment où la res cogitans, la conscience, la pensée n'est pas de même nature que le corps, eh bien, il y a des hommes qui ont des corps, il y a des inégalités du côté des corps, mais il n'y en a pas du côté de la res cogitans. Et donc, bien sûr qu'il y en a qui ont des machines moins bonnes qui font que l'intelligence fonctionne moins bien. Ça, c'est des cartes. Mais malgré tout, du côté de la volonté, comme la volonté reste infinie, elle, il y a une sorte d'égalité du côté de la volonté. C'est une affirmation extraordinaire. Tout homme est également responsable, également. Il n'y a pas, voilà. Et on peut être pauvre, on peut être riche, on peut être savant, on peut être ignorant. Chacun a un pouvoir qui relève de sa volonté et peut orienter sa volonté vers ce qu'il connaît du bien, ou alors justement être un lâche, manquer de générosité. On peut se tromper sur le bien sûr, mais malgré tout, voilà, la bonne volonté, c'est celle qui s'est tournée vers le bien qu'elle a connu. Et donc, il y a une égalité ici, une affirmation de l'égalité du côté de la volonté entre les hommes. Et puis, alors, on retrouve le bon sens, la chose la mieux partagée. Ici, on voit la volonté, la chose la mieux partagée. Et si moi, je suis bon et que je vois quelqu'un de vicieux, je me rends compte que je fais crédit que, bah oui, moi aussi, j'aurais pu tomber. Ouais, donc, première chose. Deuxième chose, si quelqu'un est beaucoup plus riche que moi, beaucoup plus grand, oui, mais quand même, malgré tout, ce qui compte, c'est la bonne volonté, c'est pas ses richesses extérieures. Donc, il y a un rapport au monde qui considère la dignité de chaque homme de ce côté-là et qui va nous rendre humbles, parce que ce n'est pas ce qu'on a déjà réussi, parce que ce qui est très étonnant derrière ça, hein, c'est le fait que dès qu'on découvre que c'est la générosité et ce bon usage du libre-arbitre qui est en jeu, on découvre aussi sa propre fragilité de ce côté-là. Parce que le texte dit après, les plus généraux ont coutume d'être les plus humbles, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont pu commettre des fautes autrefois, ils pourraient encore en commettre demain. Et ils ne feront pas de moindres. Ils peuvent faire des fautes qui ne sont pas moindres que celles qui peuvent être commises par d'autres. C'est très étonnant, cette affirmation de Descartes. Donc, voilà, la volonté étant vraiment libre, à chaque fois, le bon usage est relancé d'une certaine façon. Il faut toujours, à chaque fois, on ne sait jamais, on peut tomber, on peut toujours tomber. Donc, générosité, humilité, et forcément, juste après, magnanimité, on retrouve l'articulation de l'humilité de la magnanimité. D'ailleurs, parfois, au lieu de dire générosité, il dira magnanimité au tout début des passions de l'âme. Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses.
Voilà. C'est extraordinaire parce que juste avant, il a parlé de... En fait, il y a une humilité vertueuse. Et donc, l'humilité vertueuse, c'est celle qui, justement, reconnaît qu'avec le peu qu'on a, on peut quand même faire de grandes choses, alors qu'il semblerait qu'il ne le développe pas, mais qu'il y aurait du coup une humilité vicieuse qui justement s'enfermerait dans ses infirmités et refuserait justement les grandes choses dont elle est pourtant, dont l'âme est pourtant capable.
Oui, c'est vrai qu'il dit humilité vertueuse, qu'il laisse entendre qu'il pourrait y en avoir une autre, une manière de se nier soi-même, de s'abaisser. De fait, hein, l'humilité et la magnanimité sont parfaitement articulées. Et c'est intéressant que cette articulation est faite par Thomas d'Aquin et ici, elle est refaite par Descartes. C'est-à-dire que, bien sûr que l'homme généreux, il le dit, hein, c'est celui qui va se lancer dans des choses, mais en même temps qui sont dans la mesure peut-être du possible. Il le dit, naturellement porté à faire de grandes choses et toutefois ne rien entreprendre dont il ne se sente capable. Ça, c'est certain. Mais derrière cette humilité vertueuse, il y a l'idée que, un, je suis fragile, je peux tomber, et donc je dois encore chercher à faire bon usage de mon libre arbitre, c'est la seule chose pour laquelle je suis digne d'estime. Sinon, je ne suis pas estimable, c'est pour des choses qui viennent du dehors, ce n'est pas moi. Mais après, eh bien, je dois faire bon usage de son libre arbitre, c'est toujours viser le bien, quelles que soient les circonstances, toujours choisir le meilleur, et donc, à partir de là, parce qu'on peut retomber et qu'on en est conscient, toujours relancer, on pourrait dire, la machine. Pour revenir à ce qui est le meilleur.
Fabrice Hadjadj, celui qui avait écrit le discours de la méthode, ne nous donne pas de méthode pour bien user de notre liberté, mais ici, il dresse un certain nombre de qualités ou un certain nombre de caractéristiques de celui qui use bien de sa volonté. Est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode, il n'y a pas de méthode infaillible pour bien diriger sa liberté ?
Il en parle à un moment donné, il parle d'une certaine discipline justement qui est comment faire pour que quand... parce que nous sommes extrêmement dépendants de notre corps. Descartes n'a jamais nié hein, cette union de l'âme et du corps, puisque dans la sixième partie du discours de la méthode, il dit ce qu'on peut faire de mieux pour un homme, pour que les hommes deviennent communément plus sages, eh bien c'est les guérir de certaines faiblesses du corps... voilà, de la mémoire, de choses ouais, qui dépendent du corps. Bon. D'où la nécessité de la médecine comme moyen plus général d'accorder à chacun plus de disponibilité aux choses de l'intelligence. Bien de la même façon, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour gouverner son imagination, parce que les patients sont marqués par l'imagination. Comment faire pour que avoir les bonnes images qui entraînent les bonnes passions qui vont entraîner, voilà, qui vont porter la volonté à faire le bien. Parce qu'il y a une faiblesse de la volonté. Elle est libre, mais parfois les passions sont très fortes et donc elle est en combat. Il insiste beaucoup hein, sur ce combat intérieur qui est toujours, non pas un combat entre différentes parties de l'âme, dira-t-il, puisque pour lui l'âme est toujours spirituelle, mais le combat entre la volonté et les passions. Et, Et ce n'est pas que les passions sont mauvaises, hein, c'est que parfois, y a des passions qui sont désordonnées. Et alors, il faut toujours réajuster, d'une part, la volonté. Ça, c'est la première chose, parce que la volonté peut être perverse. Hein, c'est indéniable chez Descartes. Mais de l'autre côté, faire en sorte de discipliner, de trouver des moyens pour travailler sa mémoire, pour travailler son imagination, et pour faire en sorte que la volonté impose au corps, en fait, des images qui, après, vont produire les bonnes passions qui, après, vont permettre à la volonté d'être portée, justement, par un corps avec des passions ordonnées.
Merci, Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Descartes, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur le site de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.